VOA Afrique.
Au programme de Washington Forum ce jeudi, la Centrafrique et son calendrier électoral qui connaît de nouveaux remous aux grandes dames de la communauté internationale qui souhaitaient des élections générales avant fin 2015. On en parle dans un instant. Bienvenue dans Washington Forum. Dans Washington Forum cette semaine, énième rebondissement dans le processus électoral en Centrafrique. Les résultats du premier tour des législatives annulés, report du second tour de la présidentielle. Ces couacs étaient-ils prévisibles? À qui profitent ces retards? Y a-t-il un risque que le pays s'enlise de nouveau? Des éléments de réponse sur le plateau de Washington Forum avec nos invités.
Washington Forum.
Actualité oblige, nous commençons cette émission avec l'ouverture devant la CPI du procès de Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé, l'ancien président ivoirien qui plaide non coupable et son ancien chef de milice sont poursuivis pour des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le point en image avec Salwa Jafari.
Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable?
Merci monsieur le président. Je plaide non coupable.
Un procès historique. Laurent Gbagbo est le premier ancien chef d'État à comparaître devant ce tribunal.
Merci beaucoup.
Autant dire que c'est un procès test pour la Cour pénale internationale.
Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains, voilà, qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Et voilà, et donc la lutte pour le pouvoir qui devient, je vais dire, l'occasion de décimer les populations et autres.
Gbagbo est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence pour conserver son fauteuil. Sur le banc des accusés, il n'est pas seul. Les mêmes charges pèsent sur son chef de milice, Charles Blé Goudé. Lui aussi a plaidé non coupable.
Je ne reconnais pas ces charges. Par conséquent, je plaide non coupable. Merci.
Un procès qui promet d'être long. Les preuves sont nombreuses, 5300 éléments. Les témoignages aussi, 726 victimes ont été admises aux procédures.
Il a reçu 9 balles à l'abdomen. Il a reçu 3 à la main. Il ne peut rien faire. Il s'est handicapé. Il veut que M. Laurent Gbagbo, même s'ils vont le juger, moi, il veut qu'il me paye. Et tout dégât qu'il m'a fait, moi, il veut qu'il assume ça.
Des violences qui avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois, transformant en champ de bataille plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Meurtres, viols, actes inhumains et persécutions, la liste des violations est longue. L'accusation a la parole aujourd'hui, demain, la défense prendra le relais. Devant le bâtiment de la CPI, quelques centaines de partisans de l'ex-président ont fait le déplacement pour montrer leur soutien aux accusés.
Bravo, président!
Reporté à plusieurs reprises, ce procès est attendu autant par le camp Ouattara que par celui de Gbagbo, d'autant qu'il repose la question cruciale des rapports entre la justice et la réconciliation.
Et nous prenons la direction d'Abidjan pour en parler avec nous. Notre invité, Georges Ibrahim Tounkara, vous êtes journaliste indépendant dans la capitale ivoirienne. Alors Georges, pouvez-vous nous dire si les Ivoiriens attendent quelque chose de spécial de ce procès ?
Ben bonsoir à vous, bonsoir à tous. Concernant donc ce procès de Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé qui s'est ouvert aujourd'hui à La Haye, il faut dire que les Ivoiriens suivent ce procès de près. Ils attendent que la vérité triomphe, que les uns et les autres prennent compte pour leur responsabilité dans la crise post-électorale de 2010-2011. C'est un procès qui est suivi avec beaucoup d'intérêt ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu, vous l'avez dit, plus de 3000 victimes, plus de 3000 morts pour être précis. Alors, qui est responsable de quoi? Qui a fait quoi? C'est la réponse à cette question que les Ivoiriens attendent. Ils veulent donc que justice soit faite pour toutes ces victimes. C'est un procès donc qui est suivi de près ici à Abidjan.
Est-ce que vous qui êtes à Abidjan, vous avez pu voir des manifestations particulières, des choses mises en place par exemple par les partisans de Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a eu des réunions, des choses d'organiser?
Bon, pas véritablement. Peut-être à Yopougon, dans le fief de Laurent Gbagbo, oui, ce procès est suivi de près dans certains espaces. On suit ce procès sur les chaînes étrangères. Et c'est un procès qui passionne beaucoup les partisans, surtout de l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais à Abidjan, il n'y a pas de dispositif particulier concernant ce procès. Les Ivoiriens vaquent normalement à leurs occupations, mais ils suivent de près ce procès, surtout dans un quartier comme Yopougon, qui est considéré comme le fief de Laurent Gbagbo. Oui.
Alors à Abidjan également avec nous, Antonin Rabec, vous êtes représentant de la FIDH en Côte d'Ivoire. Antonin, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi se base l'accusation? Ils disent avoir plus de 5300 éléments. Aujourd'hui, concrètement, quels sont les éléments dont peut disposer le procureur Fatou Bensouda?
Merci beaucoup, bonsoir. Je pense qu'avant de rentrer dans le détail des éléments dont peut disposer le bureau du procureur, il faut revenir à la stratégie de poursuite qui a été annoncée aujourd'hui par le bureau du procureur. La stratégie de poursuite qui repose sur un projet commun qu'un cercle proche du président Laurent Gbagbo et dont faisait partie Charles Bégoudé aurait fomenté pour se maintenir au pouvoir, quitte à massacrer et commettre des crimes contre les populations civiles. Et donc l'enjeu pour le bureau du procureur dans son rôle d'accusation, ce sera de relier les crimes commis. Vous avez vu que quatre situations spécifiques ont été visent la responsabilité de Laurent Gbagbo, cinq pour Bégoudé. Et l'objectif, ce sera de relier ces crimes-là avec le projet politique de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé et de son entourage proche, pour démontrer la culpabilité. Alors, ça passera par un nombre important de témoins. Il y a plus de 138 témoins qui seront appelés à la barre. Vous avez aussi cité 726 victimes qui font partie de cette procédure. Donc, les témoignages, surtout s'agissant des crimes commis à Yopougon, par exemple, où les autorités, en fait, ne fonctionnaient plus directement, et c'était davantage des milices. Donc, il était probablement difficile de documenter les choses au quotidien à Yopougon. Donc, des témoignages occuperont une place centrale, mais également un nombre de documents importants qui ont été saisis par les autorités ivoiriennes, transmises dans le cadre de la coopération à la Cour, et qui devront appuyer ces témoignages de victimes et de témoins.
Donc pour ceux qui doutaient que l'accusation puisse avoir suffisamment d'éléments contre l'ancien chef d'État, vous nous confirmez aujourd'hui qu'il y a largement de quoi étayer ces différentes accusations?
Et ça sera au procès de le dire, mais en tout cas, probablement que l'audience de confirmation des charges de 2013, où la Chambre préliminaire avait demandé au bureau du procureur de produire des preuves supplémentaires, a permis, dans une certaine mesure, au bureau du procureur d'étoffer son dossier et d'alourdir les éléments visant Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé.
Georges Tounkara, je reviens vers vous. Est-ce que la presse ivoirienne se fait écho encore aujourd'hui des témoignages de victimes? Est-ce qu'il y a des investigations qui ont été menées par la presse sur place, vous et vos confrères? Est-ce que vous avez travaillé à essayer de comprendre de quoi était faite cette crise post-électorale?
Oui, le procès de Laurent Gbagbo est à la une de toute la presse ivoirienne de ce jour, surtout la presse proche de l'ancien président, la presse qu'on appelle la presse bleue. Oui, les grands titres de la presse sont consacrés à ce procès avec des réactions notamment des victimes qui reviennent un peu sur ce qu'elles ont vécu pendant cette crise post-électorale. Oui, la presse en parle abondamment.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que bon, tout le monde veut comprendre ici à Abidjan, voilà ce qui s'est réellement passé. Est-ce que Laurent Gbagbo est véritablement coupable ou pas? Est-ce qu'il est le seul aussi responsable de tout ce qui s'est passé? Voilà, on veut vraiment comprendre tout ce qui se passe. Et en tant que journaliste indépendant, je pense que c'est très important que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que ce procès de Laurent Gbagbo est très intéressant. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme le Burundi aujourd'hui, on peut se dire que l'existence de la CPI, le fait que la CPI a été créée, est une très bonne chose, parce qu'au moment où les Africains dénoncent la CPI, on voit que dans un pays comme le Burundi, encore, il y a des massacres qui sont commis, et l'Afrique est impuissante face à cette réalité burundaise.
Antonin Rabec, je reviens vers vous pour une autre question. Cette fois-ci, elle concerne la procédure en elle-même. Il y a eu entre 5 ans pour Laurent Gbagbo et au moins 2 ans d'emprisonnement. Ils sont à la haie depuis cette période, Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Est-ce que 5 ans de préventif, ce n'est pas long pour pouvoir constituer un dossier? Est-ce que c'est normal?
Alors, 5 ans de détention préventive, c'est très long dans l'absolu, et en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous sommes évidemment très soucieux par ces délais de détention préventive. Et je dirais que ce sont deux principes qui s'opposent. Le principe d'un procès dans des délais raisonnables d'un côté, et à ce regard-là, 5 ans, c'est donc une durée extrêmement longue, et de l'autre côté, le principe des droits de la défense, et notamment à la défense de préparer son procès, et ça c'est la mécanique de la Cour pénale internationale qui est complexe, qui produit, si vous voulez, des procédures très longues, avec des documents très nombreux qui sont traduits pour permettre à la défense d'en prendre connaissance, et une procédure qui fonctionne par étapes et par petits pas. C'est donc aussi le pendant nécessaire pour Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet d'avoir connaissance de l'ensemble des preuves et des charges qui seront présentées contre eux pendant ce procès. C'est une question évidemment très difficile qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui, mais qui est en même temps le contrepoint de ces procédures devant la justice pénale internationale qui sont complexes et très élaborées.
Depuis New York, vient de nous rejoindre André Michel Essoungou, qui est porte-parole du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Bienvenue dans ce Washington Forum. Alors, le procureur de la Cour pénale internationale a affirmé à l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo avoir obtenu un grand nombre de preuves, démontrant ainsi la culpabilité de l'ex-chef d'État dans les violences ayant déchiré son pays en 2010-2011. L'accusation a présenté plus de 5300 éléments. André-Michel Essoungou, est-ce que la mission de l'ONU sur place collabore, aide dans les investigations pour la CPI ?
Alors, je ne suis pas au fait, comme vous le devinez, des détails de l'enquête de la CPI dans ce cas précis. Ce qui est vrai dans d'autres cas qu'il m'est arrivé de suivre sous d'autres casquettes, celle de journaliste notamment, c'est que quand la CPI mène de telles enquêtes, elle parle à beaucoup de personnes, à des survivants des crimes dont il est question, à toutes les parties qu'elle puisse trouver, et notamment aux présences de l'ONU à l'époque des faits sur le terrain sur lequel est l'enquête. Donc il est tout à fait probable, d'ailleurs, que dans ce cas précis, la CPI ait parlé à de nombreux acteurs, à de nombreux témoins, et notamment à ceux qui, au sein de la mission des Nations Unies à l'époque et toujours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, auraient quelque chose à apporter.
Alors, dans un procès comme celui-ci, qui peut-être servira d'exemple pour d'autres chefs d'État, comment est-ce que l'ONU observe cette procédure? Comment est-ce que l'ONU peut accompagner ce genre de procédure pour à la fois défendre les droits de l'homme des pays où elle intervient et protéger les civils? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que ça fait partie de votre tâche que de continuer de suivre les dossiers en dehors des opérations de maintien de la paix?
Écoutez, sur la question de la justice pénale internationale, l'ONU est en fait à la fois en aval et en amont des processus. Souvenez-vous, prenant un pas en arrière, et bien avant la CPI aujourd'hui, il y a eu les tribunaux pénaux internationaux du Rwanda, le TPIR, et celui de l'ex-Yougoslavie, tous les deux créés au milieu des années 90, créés par des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, et que le secrétaire général de l'ONU à l'époque a eu pour responsabilité d'établir. Dans le cas de la CPI, qui est donc une continuation d'une certaine manière de ces deux tribunaux qui ont précédé, les Nations Unies n'ont pas ce rôle direct puisque la CPI est une entité indépendante. Ceci étant dit, à la suite de nombreuses déclarations du secrétaire général, il est facile d'observer que nous, aux Nations Unies, sommes de grands supporters du processus et de l'institution CPI. Ceci dit, les procès qu'elle mène, la CPI les mène en toute indépendance, et la position de principe des Nations Unies et du secrétaire général est de respecter à la fois le contenu de processus et les décisions qui seront prises en fin de compte.
Messieurs, une dernière question à vous trois. La procureure Fatou Bensouda a été critiquée pour appliquer une justice des vainqueurs. Elle l'a enquêté avec ses équipes, essentiellement pour l'instant sur le camp Gbagbo. Certains Ivoiriens lui reprochent de ne pas encore avoir investigué sur le camp Ouattara. Qu'en dites-vous, Georges Toukara?
Ben, vous savez, on est un peu habitué à ce genre de critique. Hein. Moi, en tant que journaliste, ça me dit pas grand-chose, hein, ce genre de critique, parce que on a déjà remarqué par le passé que quand des gens sont dans l'opposition, ils deviennent amis aux défenseurs des droits de l'homme. Ils sont amis à la FIDH, à Human Rights Watch, à toutes les organisations de défense des droits de l'homme quand ils sont brimés. Même fois qu'ils se retrouvent au pouvoir, ils se retournent contre ces mêmes organisations de défense des droits de l'homme qui les soutenaient au moment où ils étaient dans l'opposition. Alors aujourd'hui, les gens disent que c'est une justice des vainqueurs, mais demain, quand la CPI va s'intéresser aux partisans d'Alassane Ouattara, vous allez voir que le discours va changer. Donc je vais dire que c'est pas ça pour l'instant l'essentiel. L'essentiel, c'est que Laurent Gbagbo aujourd'hui est devant la CPI. Est-ce qu'il est responsable ou coupable de ce qui lui est reproché? Il faut trouver la réponse à cela. Et puis bon, après, la CPI l'a dit, elle va s'intéresser à tout le monde. Donc il ne faut pas faire le procès de la CPI en ce moment. Il faut lui donner le temps et on verra avec le temps si la CPI est partiale ou pas. Voilà, il ne faut pas aller vite en besogne, il faut aller doucement.
Merci Georges Ibrahim Toukara. Antonin Rabec, un dernier mot pour la fin. Est-ce que vous pensez qu'il y a une justice des vainqueurs uniquement en route?
Alors en tout cas, la stratégie du bureau du procureur de poursuivre dans un premier temps les Gbagbo peut alimenter cette perception qui est effectivement, comme le disait M. Toukara, assez répandue et facilement répandue. Néanmoins, je pense qu'il faut, recentrer aussi le procès Gbagbo-Blegoudé de la Haye comme une première étape dans la réponse judiciaire globale à la crise post-électorale. Et je pense notamment aux procédures judiciaires qui sont en cours en Côte d'Ivoire, qui ont commencé immédiatement après la crise, qui prennent du temps, certes, parce que la justice ivoirienne manque de moyens et parfois de soutien politique. Mais en 2015, il y a eu des avancées assez importantes, y compris dans le camp pro-Ouattara, avec une vingtaine de personnes et notamment des officiers de haut grade qui ont été inculpés. Et donc, en même temps, et c'est ce qui va être intéressant, en même temps que le procès Gbagbo-Blegoudé se déroule à La Haye, la justice ivoirienne avance et on est dans un stade où les instructions probablement se termineront assez rapidement pour permettre des procès en Côte d'Ivoire qui répondront, je pense, à ces critiques-là et qui permettront d'incarner enfin le principe de la complémentarité entre une justice nationale et la justice pénale internationale.
Et c'est le mot de la fin de cette première partie. Merci Antonin Rabec depuis Abidjan. André, Michel et Sungu, restez avec nous parce que nous allons continuer avec vous depuis New York pour la deuxième partie de ce Washington Forum. On marque une courte pause. Maintenant à la Centrafrique, le feuilleton électoral est décidément plein de rebondissements. Après l'annulation pure et simple des résultats du premier tour des législatives, le second tour de la présidentielle est désormais programmé au 14 février. Retour en image sur un processus destiné à sortir le pays de 3 ans de crise. Claire Morin-Gibourg.
La Cour constitutionnelle a tranché. Après l'annulation des législatives, le second tour de l'élection présidentielle est reporté.
Il y avait de sérieuses anomalies quand même. Hein. Nous avons relevé plusieurs erreurs sur les bulletins de vote. Il y a des localités que nous n'avons pas pu atteindre à temps avec les bulletins de vote pour les législatives. Et le traitement des candidatures aux législatives nous a posé d'énormes problèmes.
L'organisation de ces élections générales le 30 décembre dernier a posé de multiples problèmes. Arrivée tardive des bulletins de vote, manque d'agents électoraux ou découverte de fausses cartes d'électeurs. Ces dysfonctionnements ne sont pas une surprise, y compris pour la communauté internationale. Le Conseil de sécurité a toutefois tenu à rappeler que la fin du gouvernement de transition est toujours prévue au mois de mars et que la solution au problème centrafricain doit être centrafricaine. Le Conseil maintient la pression et dans la foulée, il reconduit les sanctions qui pèsent sur certains individus ou groupes dans le pays. Les terribles violences intercommunautaires à la fin de 2013 avaient fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Pour sortir de cette crise, la communauté internationale a alors pesé de tout son poids pour que la Centrafrique organise des élections le plus rapidement possible. Un ultimatum au prix de nombreuses irrégularités.
Et le second tour de la présidentielle opposera deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Il était prévu le 31 janvier, il sera désormais le 14, ainsi que les législatives. Je vous propose d'écouter la réaction d'Anissé Georges Dologuélé.
Je pense que c'est normal, il y a eu un glissement pour le premier tour, un glissement de 3 jours. Ce glissement aurait pu être reconstaté pour le second tour, mais vous voyez qu'il y a un élément nouveau. C'est l'annulation des élections, du premier tour des élections législatives. Donc il était difficile de tenir le délai et le fait que la présidente de transition sur proposition de l'ANE ait pu fixer la date de convocation du correctorat pour un scrutin le 14 février, je trouve que c'est normal.
Alors, vous venez de parler de l'annulation législative sur l'ensemble du pays. Comment trouvez-vous cette décision de la Cour ?
C'est une décision de la Cour constitutionnelle de transition sur la base de ce qu'elle a constaté par rapport aux différentes irrégularités. Je n'ai pas commenté cette décision.
Et je vous propose également la réaction de deux candidats aux élections législatives.
Oui, ma réaction aujourd'hui, je suis très content par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle qui a tout annulé sur l'étendue du territoire parce qu'il y a trop de fraudes au niveau des élections législatives sur toute l'étendue du territoire. Donc ça a amené à tous les candidats vraiment à se remettre en question parce qu'on a constaté beaucoup de fraudes, particulièrement dans toute l'étendue du territoire.
Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ces élections, il y avait eu beaucoup de failles. Donc, si aujourd'hui c'est annulé, ça ne peut que nous encourager encore à reprendre encore de nouveau parce que, comme vous le constatez, il y avait eu beaucoup de failles. Il y avait eu beaucoup de failles et puis nous aimerons vraiment prendre le temps pour bien organiser, pour bien nous réorganiser pour aller au deuxième tour.
Et en plateau avec nous, Yves Kongolo, fondateur de l'ONG Renaissance de la Centrafrique, et ainsi que Gaston Nguérékata, ex-candidat à l'élection présidentielle de décembre 2015. Bienvenue avec nous. J'aimerais commencer avec vous, monsieur Nguérékata. Est-ce que ces élections, est-ce que c'était une surprise que l'on reporte ce processus? C'était attendu finalement, non?
Oui, c'était attendu. Revenons un peu en arrière. Les Centrafricains, en fait, veulent en finir avec la transition. Une transition qui n'a pas réglé grand-chose et qui est traînée en longueur. Mais cependant, certains hommes politiques et de la société civile centrafricaine estimaient que l'Autorité nationale des élections, l'ANE, n'était pas prête, n'est-ce pas, pour organiser ces élections-là. La communauté internationale qui soutient en même temps, n'est-ce pas, ces élections, l'entendait d'une autre oreille, tenait à ce que ces élections aient lieu avant la fin de l'année 2015. Voilà. Et il y a même un chef d'État de l'Afrique centrale qui disait qu'il valait mieux des élections mal préparées plutôt qu'une transition chancelante. Mais voilà, ces élections mal préparées sont celles-là.
Alors, effectivement, vous avez dit, la communauté internationale très impliquée dans ce processus électoral. André, Michel et Songou, vous êtes toujours en direct avec nous depuis New York. Est-ce qu'il fallait, coûte que coûte, organiser ce scrutin?
Écoutez, c'est une question évidemment à laquelle il est difficile de répondre de la position où je me trouve. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres institutions régionales notamment se sont à plusieurs reprises prononcées en faveur des élections qui auraient lieu le plus tôt possible. Parce que la justification essentielle de ces élections, du point de vue des Nations Unies tout au moins, c'est de remettre aux Centrafricains la possibilité d'avoir des institutions qu'ils auraient choisies, des institutions légitimes qui vont se remettre sur la voie de la reconstruction et notamment commencer par rebâtir la présence de l'État à travers l'étendue du pays, la présence en matière de sécurité, la présence en matière de justice. C'est cela la position essentielle de la communauté internationale. Maintenant, les délais et les défis qui se sont posés à l'organisation de ces élections étaient évidemment envisagés depuis très longtemps. Nul n'est sans ignorer la difficulté qu'il y a aujourd'hui à parcourir la Centrafrique.
Effectivement, effectivement. Monsieur Kongolo, est-ce que aujourd'hui les responsables politiques et les acteurs centrafricains vous pensez qu'ils peuvent tirer les leçons de ce nouveau report?
Je pense que la population elle-même va tirer une leçon de ce nouveau report. Je ne suis pas trop sûr concernant les hommes politiques. Parce
qu'on a
vécu plusieurs décennies de décisions qui ont été prises et qui n'ont jamais profité de la population.
Vous voulez dire que les Centrafricains n'ont plus foi en leurs hommes politiques ?
Exactement. Et c'est ça le plus gros problème qu'on a en Centrafrique.
Et comment reconstruire cette confiance ?
Il faut avoir la bonne personne à la bonne place. Il faut savoir embrasser les idées de tout un chacun. Il faut savoir réorganiser et prendre part au développement de la population, de l'homme, de la femme, respecter les droits de l'homme et aussi savoir qu'on a un sérieux problème d'inégalité sociale.
Alors, Monsieur Ngerekata, vous avez été dans la course à la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, parmi les candidats qui arrivent au second tour, le profil qui va pouvoir aider la Centrafrique à se sortir de la crise, même si le processus est difficile?
D'abord, il faut se poser la question suivante. Dans la situation actuelle de crise, où le peuple a beaucoup souffert, où il y a plus de 400 000 déplacés, des centaines de milliers de réfugiés à l'extérieur, quel type de chef d'État il faut? Eh bien, la réponse est claire. Il faut un chef d'État qui fasse preuve d'humilité, de modestie face à l'ampleur, n'est-ce pas, des problèmes qui se posent et qui seront, n'est-ce pas, ceux auxquels il va être confronté. Il faut un chef d'État qui soit réaliste. Nous ne sommes pas encore à l'ère de construction de chemins de fer ou d'autoroutes à deux voies pour aller au Cameroun. Nous sommes à l'ère où les Centrafricains ont besoin de manger, où les Centrafricains ont besoin de toit.
Mais justement, est-ce que André Michel et Songo, est-ce que ce n'est pas la mission que s'est donnée l'ONU en intervenant, en arrivant en Centrafrique? Est-ce que ce n'est pas de soutenir, de porter ce processus coûte que coûte?
Oui, c'est la mission, la résolution qui crée en avril dernier, la mission, en avril 2014, la mission des Nations Unies en République Centrafricaine est très claire. Mais la résolution porte aussi d'abord sur l'urgence. En premier, il s'agit de protéger les civils. Souvenez-vous, à cette époque, on parle d'une situation d'insécurité grande à Bangui, la capitale, et dans le reste du pays. Depuis septembre 2014, donc, et le déploiement de cette mission jusqu'à aujourd'hui, il y a eu, de ce point de vue, sans aucun doute, des progrès. C'est d'ailleurs pour cela que les processus électoraux, tant bien que mal, ont pu se mettre en place. Et donc, oui, c'est cela que la communauté internationale est venue faire, essayer d'accompagner ce processus de transition vers un retour à la stabilité qui inclut notamment un retour à la promotion et à la protection des droits de l'homme.
Effectivement, M. Kongolo, un dernier mot, un dernier commentaire sur la situation dans votre pays?
Je suis très fier de tous les Centrafricains, y compris Séléka ou Antibalaka, ce sont des Centrafricains. Je suis Séléka, je suis Antibalaka, je suis Centrafricain. Ils ont montré qu'ils étaient au-delà de la violence pendant les campagnes électorales. Et aussi, ils ont permis à tous les candidats de sillonner en République Centrafricaine. Il y avait des cas où, il y avait des vols de gauche à droite, mais ils ont fait preuve de beaucoup de maturité pour l'intérêt national. Et je ne peux qu'encourager, j'aimerais qu'on encourage la population à faire de bonnes choses.
Je suis de même avis conclure. Parce que, en fait, vous voyez l'engouement qu'ont eu les Centrafricains pour aller s'inscrire sur la liste électorale, d'une part, et aussi l'engouement qu'ils ont eu le jour des élections où ils faisaient la queue pendant des heures pour aller voter. Ça, c'est encouragé.
C'est ce qu'on on retiendra. Voilà. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est ce qu'on retiendra. Merci, André Michel Lesungu. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à la chaîne Golf TV à Cotonou qui diffuse Washington Forum.